Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec un dessinateur que j'apprécie particulièrement, mais c'est aussi un scénariste virtuose. Voilà, pendant cette émission, vous allez voir que j'aime beaucoup son travail. C'est Nicolas Juncker que j'interviewe pour un album qui s'appelle « Seul à Berlin ». Publié par les éditions Casterman. Donc c'est un album un peu difficile, voilà, pas forcément à mettre entre toutes les mains sans explication. On va en parler. Bonjour Nicolas, je suis ravi de vous avoir dans l'émission.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Et est-ce que vous allez bien déjà après toutes ces périodes de confinement, d'arrêt de travail, d'enfermement ?
Oui, ça va très bien. Je fais partie de ces privilégiés qui ont une maison avec jardin. Et dans la bande dessinée, bah, comme vous le savez, on est un peu confiné tout le temps, c'est un peu notre métier. Donc ça m'a pas beaucoup changé, à part les enfants à la maison tout le temps. Sinon, j'ai pas été trop perturbé, j'ai pas été plus perturbé.
C'est ce que m'ont dit tous les auteurs que j'ai pu interviewer. Fait, les auteurs de bande dessinée n'ont pas été traumatisés par le confinement.
Quoi. Non, je pense qu'on est même un modèle pour l'humanité.
Donc, Seul à Berlin, c'est un album bouleversant, je crois qu'on peut dire ça. C'est un album aussi fascinant, parce qu'on rentre dans une période de l'histoire que peu de gens connaissent, en tout cas avec autant d'intimité que décrit dans cet album. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le début, le principe de Seul à Berlin, parce que c'est original, et on rencontre des femmes, parce que les deux personnages principaux sont des femmes qui ont un destin très particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le début de l'album et qui sont ces deux femmes ?
Ouais, alors, le contexte, en fait, l'histoire se déroule à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à Berlin, en avril-mai 1945, à une période qui est pas si connue que ça, finalement, parce que, bon, le Reich est sur le point de tomber, voire tombe au tout début du livre, et les Allemands vont subir l'occupation, les Berlinois vont subir l'occupation soviétique. Donc je raconte ça par le biais de deux narratrices, deux femmes, une Allemande et une Russe. Je m'inspire de deux personnages qui ont réellement existé. Une civile qui a vécu d'une part la fin du Reich, les bombardements, la survie, etc. Et après l'occupation soviétique, et avec tout ce que ça a pu entraîner. Et d'un autre côté, une soldate russe, interprète, de guerre, qui travaillait pour le Smersh, bon, le NKVD en fait, et qui participait donc à délivrer, qui a fait partie de l'armée rouge qui a envahi Berlin, qui participait notamment à l'enquête pour retrouver, identifier le corps d'Adolf Hitler. Comme les soldats russes habitaient chez l'habitant, j'ai imaginé la rencontre de ces deux femmes, amenées à partager un même toit, voire un même lit, et donc une proximité physique assez inédite, doublée du fait qu'elles toutes les deux rédigent un carnet. Donc c'est aussi les croisements de leurs écrits à tous deux, de leur vécu et de leur carnet.
Ce qu'il faut dire, c'est que ces deux femmes sont aussi très différentes. Donc Evgenia, qui est la russe, donc la soviétique, est une très jeune femme, elle a 19 ans, je crois.
Oui.
Elle travaille pour le NKVD, et le NKVD, il faut préciser que c'est la police politique soviétique. Donc il y a une partie du NKVD dans l'armée qui surveille l'armée, mais qui surveille un peu tout le monde. L'autre femme qui est Ingrid, elle est beaucoup plus vieille, elle a une trentaine d'années, je crois.
Pour détailler un petit peu, donc effectivement, on est un personnage, enfin une femme russe qui est plus jeune, qui est plus idéaliste, qui n'a pas vraiment pris conscience du stalinisme ou des purges de 37-38, qui n'a pas non plus vécu le début, les horreurs de la guerre en 41, qui s'est portée volontaire plutôt après le siège de Moscou, donc qui a plutôt connu la libération de l'Europe de l'Est jusque de Moscou à Berlin, en fait. Donc qui est très idéaliste, qui est portée sur un vent nouveau, un peu, qui porte l'armée rouge comme ça, la libération, la découverte de l'Europe, etc. Et de l'autre, Ingrid, qui, elle, est bourgeoise, lettrée, infirmière à la Croix-Rouge, qui est fiancée à un SS, qui n'est pas une nazie, elle n'est pas inscrite au parti militant, etc., mais qui a participé au nazisme, comme toute Allemande un peu inactive et coupable d'activité, quoi. Mais qui a déjà subi beaucoup de choses, donc elle est beaucoup plus dure, parce qu'elle a vu la chute de la société allemande du Troisième Reich, donc elle a pas ce regard plein de bienveillance que peut avoir Evgeny à la Russe.
Oui, parce que leurs expériences sont très différentes. Donc la Russe, une très jeune femme qui découvre un peu la vie tout en étant impliquée dans la police politique. Mais vous racontez vraiment avec beaucoup de pudeur et beaucoup de distance, en tout cas une distance très juste, le calvaire des femmes allemandes à la toute fin de la guerre, enfin en tout cas quand les Russes rentrent en Allemagne, qui est les viols par millions, les viols massifs, toutes les femmes allemandes quasiment, on dit que toutes les femmes allemandes ont été violées, abusées par les soldats soviétiques. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire dramatique ?
Disons que c'était c'est une histoire un peu méconnue, et ce qui m'intéressait, c'était de décrire ce fait, donc des viols massifs répétés et sinon autorisés, du moins acceptés, ils étaient interdits par le Parti communiste et le comité, mais bon, personne n'allait empêcher les soldats de l'armée rouge de prendre du bon temps après tout ce qu'ils avaient vécu, enfin sûrement pas leur hiérarchie, et sûrement pas les hommes allemands qui étaient terrés dans les caves et qui laissaient les femmes se débrouiller tout seules. Quelle pouvait être la réaction des femmes qui vivaient ça, en fait? Donc, il y a plusieurs témoignages de femmes allemandes ou autres qui ont vécu l'occupation soviétique. Évidemment, le plus connu, c'est une femme à Berlin, avec un récit anonyme publié chez Gallimard. Comment supporter ça? Comment survivre à ça? La démarche, du coup, de la narratrice, ça va être de se trouver un officier, une sorte de loup pour éloigner la meute, et après, pour que les soldats lui foutent la paix. Mais donc, ça devient une sorte de prostitution, plus ou moins encouragée par ses voisins ou propriétaires, parce que l'officier allo-russe ramène de la nourriture, ramène de la boisson, donc il est pas mal cet officier russe. Il est plutôt même le bienvenu pour les autres locataires ou colocataires de la narratrice. Donc il y a tout un rapport à la violence, au sexe, à la domination masculine massive qui est là, qui était déjà là avant dans le Troisième Reich, elle le dit dès le départ, quand le Troisième Reich s'effondre, les hommes ont disparu, c'est les femmes qui tiennent la société à bout de bras, les hommes sont soit sur le front, soit déportés, etc. Ils sont complètement abandonnés, enfin ils sont perdus sur leur Troisième Reich, et c'est les femmes seules qui arrivent à survivre dans Berlin en ruine, à trouver de la nourriture, à survivre tout bêtement. Donc c'est une société vraiment d'Amazon, ce qu'on a vu après avec les Trümmerfrauen, en fait, avec ces femmes allemandes qui ont déblayé les ruines et reconstruit Berlin toutes seules sur les hommes, quoi.
Ce qui est très intéressant dans tout l'album, c'est qu'on s'aperçoit que la moralité dans cette ambiance de paroxysme, d'effondrement, n'a plus cours. Il n'y a plus de valeur, on cherche seulement à survivre et à tout prix.
Comme dit Ingrid, à un moment où la morale, c'est bon pour ceux qui ont le ventre plein. Je pense qu'on peut difficilement se permettre de juger qui que ce soit, vu les circonstances que les gens traversaient à l'époque. Donc la question morale se pose, Ingrid se la pose elle, par exemple par rapport à la prostitution, parce qu'elle est quand même très fière. C'est est-ce que je suis devenue une prostituée? Qu'est-ce que la prostitution? Est-ce que c'est encore du viol? Le fait que j'accepte de coucher avec un homme contre mon gré, mais pour éviter que d'autres hommes couchent avec moi et contre de la nourriture. C'est des questions affreuses, mais qu'elle est amenée à se poser, mais au-delà de toute morale. La question de la morale se pose plus par rapport à Evgenia, finalement, à la Russe. Oui. Là, je me suis inspiré des carnets d'interprètes de guerre d'Elena Rzhevskaya, qui sont formidables. Parce que Elena Rzhevskaya est quelqu'un de très fin, alors en plus elle est très germanophile, elle adore la culture allemande, elle adore la société allemande, elle déteste voir les Russes faire aux Allemands un peu ce que les Allemands ont fait aux Juifs, elle croise des Allemands avec des immenses croix gammées, des prisonniers allemands avec des immenses croix gammées peintes sur le dos, elle trouve ça abject parce qu'elle a l'impression qu'on fait la même chose que ce que les Allemands ont fait aux Juifs, quoi. Donc elle est très plutôt bienveillante, dans la bienveillance. Mais bon, elle veut pas trop voir les viols ou elle les ignore dans son livre. Le vrai livre, elle en parle très peu, elle s'occupe à peine de lignes, histoire de dire que c'est interdit par le comité pour un bar, parce qu'elle n'évoque pas le sujet. Et puis je pense que c'était un peu tabou aussi en URSS, y compris dans les années 80, quand son livre est paru.
Ouais, ouais.
Mais là, elle le sait. Bon, en plus, elle en est protégée, parce que comme elle est membre du NKVD, contrairement aux autres femmes de l'armée rouge, qui elles ont subi régulièrement, en plus des combats à front contre l'Allemagne, elles ont subi l'assaut des hommes russes, quoi, l'assaut sexuel des hommes russes. Elle, avec ses gars du NKVD, bon, la police politique, on se doute qu'elle était plus ou moins protégée, que les soldats, le troufion russe va pas aller emmerder une officier du NKVD, quoi, même si elle a une jupe. Donc, elle est un peu protégée de ça, elle le sait, elle le nie un petit peu, mais là, avec Ingrid, elle va vraiment être confrontée, surtout plus quand elle va lire son carnet. Donc, elle va essayer de réagir, de tirer Ingrid des griffes de cette situation. Ça va être très difficile pour elle, parce que son colonel va très vite le rappeler. Bon, écoute, on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Ta copine Bosch, elle en verra d'autres, quoi. C'est pas une priorité pour nous, quoi, de toute façon. Donc la question de morale se pose plus pour Evgenia que pour Ingrid.
Oui, ce que vous rappelez aussi à deux ou trois reprises dans l'album, c'est que les soldats russes qui arrivent à Berlin, ce sont aussi des soldats qui ont connu quelques-uns la guerre depuis 1941 et qu'ils ont vécu l'abomination absolue de la domination nazie, de l'occupation, des massacres à grande échelle, des millions et des millions de morts. Donc il y a aussi une sorte de désir de vengeance qui les anime, qui les pousse. Et ça, pas faire grand-chose là-dessus.
Non, il y a tout un tas de choses. Il y a à la fois un désir de vengeance, une guerre patriotique, une haine farouche contre tout ce qu'ils ont pu voir sous l'avancée de l'armée allemande de 1941 à 1943. Donc effectivement, il y a un désir de vengeance, une sauvagerie incroyable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de complexe, en fait. Vu ce que les Allemands ont fait chez eux, ils n'ont aucun complexe. Enfin, ils se donnent le droit de n'avoir aucun complexe. Il y a la guerre patriotique, qui est quelque chose d'énorme, qui a été évidemment mis en scène avec la propagande et Staline, mais c'est quand même... Enfin, c'est quelque chose d'énorme qu'ils ont fait. Ils ont reculé, ils ont eu des millions de morts, et ils sont revenus, et ils reviennent, et ils sont les seuls au départ, ils sont les seuls à refouler les Allemands jusqu'à Berlin. Donc, ils ont un sentiment de victoire, ils ont une griserie qui est énorme, qui crée chez eux en plus un sentiment de liberté, complètement trompeur, parce que justement, le NKVD leur laisse un peu la bride, peut-être un peu trop à certains moments. Donc, ils ont des sentiments de liberté, que finalement, même en URSS, plus rien ne sera comme avant. Il y a une liberté qui va être là. Ce qui est complètement trompeur, parce qu'évidemment, le pouvoir, Staline le premier, va se rendre compte du danger de la chose. De voir trop d'hommes goûter aux démocraties occidentales et aux richesses. Les Allemands sont surpris quand ils découvrent l'Allemagne, ils voient un pays qui est magnifique. Ils voient un pays avec des usines en parfait état, avec des fermes magnifiques, avec des champs, des forêts. Il y a des témoignages de soldats russes qui comprennent pas finalement pourquoi les Allemands les ont attaqués, mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez nous? Enfin, c'est de la boue, c'est pourquoi ils sont venus nous envahir finalement. Ils avaient tout chez eux. Donc, ils découvrent tout ça. C'est ce truc des montres-bracelets que je décris, parce qu'ils piquaient plein de choses. Alors, finalement, ils avaient 6, 8, 10, 12 montres-bracelets accrochés au poignet qui piquaient partout. Ils piquaient des vélos, alors qu'ils ne savaient pas faire de vélo. Il y a une découverte de la liberté. Il y a cette soif de la guerre patriotique. Il y a tout ça un peu qui fait avancer l'armée rouge, qui fait qu'ils sont inarrêtables.
On a parlé des femmes allemandes donc avec Ingrid. Il faut parler des Russes. Donc, il y a cette Evgenia. Mais il y a beaucoup de planches et beaucoup d'histoires sur l'armée rouge à Berlin. Là, je dois dire que ce sont des histoires qui sont assez drôles, même si c'est le contexte est dramatique. Vous arrivez à en faire des peut-être pas des sketchs, mais en tout cas des rebondissements qui sont à chaque fois assez marrants, même si les choses se finissent mal pour certains personnages. Parce que Evgenia, elle fait partie de la branche du NKVD qui est chargée de récupérer le cadavre d'Hitler sur ordre de Staline, victoire symbolique, prise de guerre très très importante. Là aussi, comment vous êtes rentré dans l'histoire et est-ce que tout ce que vous racontez, c'est la véritable histoire? Qu'est-ce que vous avez inventé dans tout ça?
Rien. Alors, de ce côté-là, rien. J'ai été très très fidèle, parce qu'en fait, finalement, j'ai collé un peu le récit d'Elena Rzeszkaya, en fait, donc qui est finalement plus ou moins la version... authentique. On a eu pas mal de doutes. Maintenant, les historiens sont plus ou moins d'accord pour penser que c'est la ce sont évidemment, c'est la bonne version des événements, de ce qui s'est passé. Donc, j'ai respecté le récit de Rzeszkaya, la date près, aux événements près, aux rebondissements près. J'ai surtout brodé sur, j'ai inventé tout le reste, en fait. C'est-à-dire le contexte, ces relations entre elle et Ingrid, oui, ces choses-là, oui. Mais tout ce qui touche à l'enquête d'Hitler, bon, là, j'étais très rigoureux. Que ce soit d'abord la découverte du four à bunker, la découverte de Goebbels, l'exposition du corps de Goebbels, qui n'est pas passé auprès de Beria et de Staline, c'est que le premier colonel est déporté, il y a un deuxième type qui arrive, qui va recentrer l'enquête de telle ou telle manière, la découverte des sosies d'Hitler, le fait que l'enquête piétine, que personne n'est capable de savoir où est Hitler, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, s'il est mort, comment il est mort, une balle dans la tête, pendu, suicidé, on ne sait pas trop. Finalement, la découverte du corps par un chien, par la mauvaise armée, parce que Staline, dans sa folie, décide d'un peu tout et n'importe quoi, et de même qu'il décidait qu'il fallait à tout prix que la chancellerie tombe le 1er mai, le jour de la fête des travailleurs, mais il fallait que ce soit telle armée qui découvre le corps d'Hitler, parce qu'il ne fallait pas que ce soit Zhukov, qui avait déjà un peu trop de gloire à son goût. Manque de bol, c'est le fort bunker, ça tombe dans le secteur à Zhukov, donc il faut que l'équipe de Evgenia, la nuit, chipe le cadavre d'Hitler pour le mettre dans un autre endroit qui soit dépendant de notre armée. Enfin, des trucs abracadabrantesques, comme dire un autre. Tout ça, c'est authentique. Là, j'ai rien inventé du tout. Le fait d'avoir planqué le cadavre d'Hitler, le fait d'avoir qu'il n'y ait que ses dents qui qui permettent de l'identifier, qu'on confie les dents d'Hitler à Lena Arlovskaya, parce que grosso modo c'est une femme et qu'on sait qu'elle, on peut lui faire confiance, personne ne va venir l'emmerder, et puis elle va pas passer son temps à picoler comme tous les hommes russes, quoi. Donc son super lui dit, bon bah tiens, tu vas dormir avec, la tête, avec les dents d'Hitler sous l'oreiller, parce qu'il dit, il y a avec toi en qui j'ai confiance. Non, tout ça c'est authentique, hein. C'est vraiment authentique.
Oui, je disais que c'est drôle parce que c'est plein de petites péripéties et on se dit que au milieu de cette immense histoire absolument dramatique et qui où l'avenir du monde est en jeu, il y a ces petites guéguerres politiques au plus haut niveau du pouvoir soviétique, mais qui pourrissent la vie des gens qui sont au centre du maelstrom. C'est ça que j'ai trouvé drôle, moi. Voilà, et qui donne de légèreté.
Bah c'est vrai que c'est terrible, parce qu'effectivement, comme vous le dites, la fin peut être tragique de ces petites blagounettes. C'est-à-dire que ça nous fait rire, ces blagounettes staliniennes, la folie de Staline, mais c'est des blagounettes qui finissent par envoyer pas mal de personnes au goulag. Que ce soit le colonel qui a exhibé le corps de Goebbels sans avoir l'autorisation de Beria, que ce soit les deux spécialistes dentaires allemands qui vont se retrouver au goulag sans comprendre ni pourquoi ni comment. Donc, ce n'est pas drôle, mais ce qui est drôle, c'est la manière dont les événements arrivent. En fait, pour moi, c'est important de le raconter avec quand même une certaine dose d'humour, même si ça peut être de l'humour noir, parce que quand vous lisez les témoignages, surtout allemands, il y a de l'humour. Les femmes allemandes, par exemple, qui ont vécu les viols massifs, etc., alors je ne sais pas si c'est l'esprit berlinois, mais elles arrivent à trouver une note d'humour dans leurs journaux, dans leurs carnets. La blague de, par exemple, la dame qui est âgée, qui a 60 ans, qui se fait violer, et qui dit en rigolant à une jeune femme, ah bah pour une fois que la ménopause a ses avantages, au moins moi j'ai pas de soucis de ce côté-là. Enfin, faut quand même sortir ce genre de blague, ce genre de truc. Ah oui. Et ça c'est ce genre de où quand elles comprennent que les soldats russes sont trop feignants pour monter plus de étages, donc quand on est au troisième, quatrième étage d'un immeuble, on risque rien. Ce genre de choses. Bon. Enfin, elles ont des petites blagues comme ça tout le temps. Et alors, je sais pas si c'est l'esprit berlinois, mais pour moi c'est important d'avoir. Et puis ça permet une respiration, de pas, parce que je sais que j'écrase quand même le lecteur avec des choses qui sont extrêmement lourdes, extrêmement graves, et surtout cette histoire de viol, quand il n'y a plus du tout d'image, quand je laisse la place uniquement au texte, pour que ce soit uniquement le poids des mots qui écrase le lecteur, comme il écrase au même instant Evgenia qui découvre ses mots dans le carnet d'Ingrid. Mm-hmm. Là, c'est important par moment. Par exemple, là, il y a ces quatre pages de carnet, ou peut-être qu'on va y revenir ou pas, où il n'y a plus d'image du tout, le lecteur découvre les carnets où quand Ingrid raconte, donc, ce que j'invente moi, mais d'après les témoignages de femmes allemandes, les viols répétés massifs pendant quelques jours à Berlin, que Evgenia est terrassée en découvrant ça, on tourne la page, et c'est le lendemain matin, et là on débouche sur une autre comique qui n'a aucun rapport, c'est son supérieur qui débouille, il a retrouvé une Ford, et il se ramène chercher son lieutenant pour la dragouiller, une petite virée en voiture fasciste, chère madame. C'est une petite note d'humour pour que le lecteur puisse quand même respirer par moment, c'est même moi déjà en tant qu'auteur, mais surtout que le lecteur puisse respirer sans oublier la lourdeur des pages d'avant. Mais ça crée un rythme, ça crée de pas être trop lourd par moment. Quand même les gens à l'époque avaient besoin de respirer.
L'humour vient aussi avec le dessin. On va parler maintenant du dessin parce que bon, les auditeurs ont compris que j'étais un fan absolu de votre travail et le dessin est extraordinaire, je pense qu'il est virtuose, il est très très inquiétant, mais aussi très drôle, très bouleversant, tout ça, on a tout ça dans cet album. L'humour vient aussi avec les personnages que vous croquez, notamment ces colonels russes, qui sont des espèces de boules avec des petites moustaches et des têtes toutes rondes. Là aussi, on respire beaucoup avec ces caricatures d'officiers russes.
Oui, c'est un contrepoint nécessaire, c'est-à-dire que c'est comme dans la comédie, ce que je racontais tout à l'heure pour le fait de créer des pauses un peu de détente. C'est pareil dans le dessin, c'est-à-dire que évidemment je vais, comme n'importe quel dessinateur, je vais chercher à exprimer une psychologie d'un personnage par un aperçu, un visage, quelqu'un qui est voûté, qui se tient droit, qui est bien habillé, qui est mal habillé, est-ce qu'il a un visage rond, un visage anguleux. Évidemment, Ingrid, l'allemande, a un visage qui est très anguleux, qui est dur, qui est... alors que Evgenia va avoir un visage rond, plutôt mignon, avec des petites taches de rousseur, etc. C'est sûr que les personnages russes, ce colonel dont vous faites partie, Melnikov, pour moi, il est là pour apporter une touche comique. C'est la folie de Staline, c'est l'expression de la folie de Staline, une espèce. Moi, il me fait penser un peu au chat de Alice au Pays des Merveilles, où il est sorti d'un dessin de Miyazaki, c'est une boule toute ronde avec ses petites lunettes rondes, ses petites moustaches. Il est là pour faire l'andouille. En même temps, il est capable d'envoyer 20 personnes au goulag ou de faire fusiller 10 personnes un jour, mais toujours avec de l'humour. D'ailleurs, il fait des blagounettes toutes plus mauvaises les unes que les autres, quoi, avec le crâne d'Hitler, etc. Puis après, il est content, il balance des phrases. Quand il balance un bon humour, un peu d'humour, on n'a jamais nu un bon socialiste, camarade, etc. Bon, ça permet de faire une détente, et sa bonhomie, finalement, qui tranche avec ce qu'il est capable de faire de très dur, donne aussi une note de enfin, il faut pas sombrer. À l'époque, pour ces gens-là, il y a une habitude de la violence et de la mort qui est omniprésente. C'est-à-dire qu'envoyer 20 personnes au goulag, c'est pas la fin du monde. C'est pas dramatique. On est dans des guerres où on a des millions de morts. Les Russes eux-mêmes, quand on parle des Russes, quand on lit les témoignages des Russes sous Staline, ils sont presque habitués à voir des gens disparaître. Quand vous lisez les travaux de Figuès, quand vous lisez ou des romans comme 1984 ou des témoignages comme Grossman ou Bulgakov ou autre, les gens sont habitués à ça, à voir des gens qui disparaissent toujours au lendemain. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne les retrouvera pas. C'est affreux, ça. Et ces gens sont habitués à ça. Donc du coup, ça permet, ils peuvent rire par rapport à ça. Donc ce Menikov, c'est le visage un peu comique de la folie stalinienne, comme on peut l'avoir dans des romans de Bulgakov ou d'autres.
Toujours sur le dessin, les deux personnages féminins, donc Evgenia et Ingrid, n'ont quasiment pas de bouche pendant tout l'album. Donc de temps en temps, elles ont une bouche, surtout quand elles parlent entre elles. D'ailleurs, j'ai remarqué ça. Je sais pas, je pense que c'est évidemment voulu, mais pendant quasiment tout l'album, elles n'ont pas de bouche. Bon, pourtant elles parlent, elles communiquent, mais leur visage est creux et vide.
Oui, alors là, je peux vous faire la version officielle, ou la version officieuse. La version officielle, c'est que c'est la démarche artistique de ne pas représenter la bouche pour laisser le lecteur se l'imaginer. Et la démarche officieuse, c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne dessine pas les bouches, mais ça fait des années, depuis... parce que tout le monde m'en parlait pas trop avant, là, sur cela Berlin, apparemment, ça choque beaucoup plus. Mais en fait, si vous prenez les anciennes bandes dessinées, il y a plein de fois où je dessine pas la bouche. Je pense que c'est lié à certaines bandes dessinées, peut-être à, je sais pas, une certaine influence.
Parce que les autres ont des bouches, mais bon, après.
Alors, quand elle parle, c'est effectivement, je fais la bouche, quand un personnage va rire, quand un personnage va être horrifié ou va crier, là, je vais dessiner la bouche. Mais sinon, je dessine pas, effectivement. Quand un personnage est muet, je trouve qu'il y a plus de force quand même de tout concentrer sur le regard. Parce que la bouche, mine de rien, va forcément indiquer quelque chose, même si qu'elle soit légèrement inclinée vers le bas, vers le haut, ou qu'elle soit strictement horizontale, que je n'ai pas forcément envie d'indiquer. Il me semble que le regard a suffisamment de force en lui-même.
Oui, donc, c'est vrai. C'était ma question suivante, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gros plans, et effectivement, on peut passer sur une planche de regard en regard, ouais. Et on a l'impression à chaque fois d'être de plus en plus proche du personnage.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard et par les mains aussi, ouais. Plus que par la bouche, étonnamment. Je sais, alors c'est un peu idiot, la bouche exprime beaucoup de choses, mais peut-être que c'est moi qui rebute à le faire au dessin. La bouche ne me sert vraiment qu'à marquer des expressions très prononcées, un cri, un rire, une surprise, un chuchotis, quelqu'un qui sifflote. Mais sinon, sinon effectivement, je préfère les yeux, les mains sont plus expressifs.
On a presque fini, mais pour que les auditeurs se rendent bien compte, donc c'est un album qui est quasiment entièrement en noir et blanc.
Oui.
Il y a quelques touches de couleur. À quel moment vous décidez, vous permettez de mettre de la couleur dans cet album qui fait un peu moins de 200 pages, mais qui est quasiment exclusivement en noir et blanc? Il doit y avoir 15 pages de couleur à peu près.
Ouais, encore. En fait, le point de départ, c'était de faire un album. Moi, je le voyais au niveau de gris. Je le dis dans le livre s'ouvre là-dessus. En fait, Berlin est une ville de gris, tout en gris. Donc ça, c'est dans plein de témoignages, dans plein de romans, on retrouve cette notion du gris qui est omniprésent à Berlin. Donc pour moi, le niveau de gris était évident, avec un mélange de la vie, de fusain, d'arriver à trouver une texture, une matière un peu charbonneuse qui exprime ce gris, cette espèce de tristesse environnante, qui après rejoint un peu le gris des mentalités, des psychologies. Dans des bouquins, ça plutôt. Donc, je savais que ce bouquin allait se faire en noir et blanc, dans des teintes de gris. Mais j'envisageais, enfin, dès le départ, qu'il y ait des séquences colorées ou au moins bichromiques. Donc, le rouge, pour moi, m'est apparu très, très naturel avec l'arrivée de l'armée rouge à Berlin, tout simplement, sur le rouge de la violence, le rouge de la guerre, le rouge du drapeau rouge, tout et que ça imprime la rétine du lecteur, que le lecteur se prenne l'arrivée de l'armée rouge comme un choc visuel, qui est un choc visuel qui se crée à ce moment-là. Il a eu 30 pages de noir et blanc et tout à coup, bam, l'armée rouge défoule, des boules. Voilà, je me trompe de concept, des boules. Et le rouge saute à la gueule du lecteur. De même que les petites touches de couleur, alors je ne vais pas parler de la fin, parce que c'est vraiment pas un petit peu gâché, mais il y a un moment dans cette séquence de famine, au tout début dans les 30 pages, quand elle mange une compote, c'est la famine, et puis elle trouve un goût elle trouve une caisse de compote, et elle met de la compote sur ses doigts, elle lèche de la compote, et là, le goût de la compote, là, je fais péter la couleur, on voit juste une pomme en couleur, parce que tout à coup, il y a quelque chose, c'est pour illustrer un peu pareil, un choc dans les rétines du lecteur, pour illustrer ce qui peut se passer au niveau de ses papilles, au niveau de sa bouche, au niveau de son gosier, le fait de respirer l'odeur d'un fruit, comme la pomme, quelque chose d'aussi frais qu'une pomme, et de la voir dans la bouche. Donc c'est par petites touches de couleur, le but c'est de surprendre le lecteur, de créer un petit choc pour le lecteur visuel qui puisse exprimer autre chose.
Nicolas, je vous remercie beaucoup de ces quelques minutes qu'on vient de passer ensemble pour parler de Seul à Berlin. Donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices à le lire, parce que lire cet album, je trouve que c'est une expérience importante pour les amateurs de bande dessinée. Voilà, ça fait partie des choses qui font réfléchir à la fois sur les événements et sur l'objet d'art que constituent les albums. Je rappelle donc qu'il est, c'est l'album est publié par les éditions Casterman, l'auteur c'est Nicolas Ginquière, le titre c'est Seul à Berlin, ça fait à peu près 200 pages et c'est au prix de 25€. Et voilà, c'est quasiment donné, il faut absolument se précipiter pour acheter ce grand album. Je vous remercie Nicolas et je vous dis à bientôt surtout.
Ben, c'est moi qui vous remercie, à bientôt Stéphane.
Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.